CFM Cahors, le mag.
Et bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Dans quelques instants, on va dire que c'est le week-end. Ah oui, c'est même bientôt le week-end. Que lire? En plus, nous sommes en pleine rentrée littéraire. Et bien comme tous les vendredis, vous aurez la réponse avec Cyril, le libraire, dans le Lot et plus précisément à Cahors. Mais d'abord, une idée de sortie ce week-end. Vous voulez emmener vos petits-enfants tranquillement, visiter une ferme découverte, direction Saint-Pierre-la-Feuille. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est le mag. Allez, pour amener vos enfants encore à faire quelques activités très sympas, direction Saint-Pierre-la-Feuille, c'est au nord de Cahors, c'est à quelques minutes, hein, c'est pas très loin. Il y a un ancien manoir qui a été reconverti en ferme découverte dans un parc pédagogique de 3 hectares, avec des espaces pique-nique, des endroits pour les animaux, des espaces jeux parents et enfants, des départs balades et poney.
Pour les nourrir, il va bien falloir, sur les consignes, bien pencher le biberon pour pas donner d'air à l'intérieur. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne visite, messieurs dames.
Allez, suivez-nous, vous pouvez nous suivre. Je vais récupérer les
tiens. Eh bien, avant qu'il commence son atelier, nous sommes avec son directeur, Hubert Levauffre. Bonjour Hubert.
Bonjour Yannick.
Alors là, on est vraiment sur la route de Brive. On est dans un beau manoir. Racontez-nous d'abord l'histoire de ce manoir où vous avez décidé de créer une ferme découverte.
Alors ce manoir donc est effectivement au bord de la route qui va de Toulouse à Paris. Hein, donc beaucoup de Lotois la connaissent et les gens des environs, parce que chacun a pu la voir se construire par Désiré Janicot, qui a construit ça dans les années 70 et y a consacré 20 ans de sa vie. 20 ans de sa vie à faire une œuvre. Au début, ça devait être une résidence d'artiste. Et puis petit à petit, c'est devenu une œuvre d'un passionné qui en a fait la maison des oiseaux et qui a fait une œuvre architecturale assez exceptionnelle qui ressemblerait un petit peu à l'œuvre comme le facteur cheval, voilà. Donc il n'y a pas de finalité dans son œuvre, c'est vraiment un lieu légendaire, voilà. Donc le manoir Saint-Pierre-la-Feuille, voilà. Donc le lieu étant légendaire, le lieu n'est pas forcément très fonctionnel.
Alors, il vous a plu, en tout cas, il vous a tapé dans l'œil.
Ah, moi j'ai été séduit par l'œuvre de l'homme, par ce côté, on va dire, insolent d'une œuvre aussi proche de la nationale. Il voulait en faire un hôtel, je ne sais pas, enfin, voilà. On ne savait pas trop ce qu'il y avait dans la tête de Désiré, parce que ça fusionnait de tous les côté, c'était poète, écrivain, ami de Brassens, donc voilà, toute une génération de gens. Vous voyez, même en haut, vous voyez ce bonhomme qui lève le poing, voilà, c'est lui, c'est le maquisard, voilà, donc vous voyez, donc c'est peut-être des gens aujourd'hui qui nous manquent, voilà, ça c'est évident, hein, des gens qui sont un peu, voilà, dans un autre monde, un monde idéaliste, voilà, hein. Donc beaucoup d'idéalisme chez Désiré. Alors moi j'ai acheté ça avec le même idéalisme, sauf que entre-temps, la bâtisse, si vous voulez, le lieu est devenu zone verte. Donc il n'y a pas eu possibilité de faire grand-chose, sinon que d'utiliser le lieu dans son état, et je ne pouvais rien faire derrière, alors que l'idée c'était de faire un musée du chocolat, production gâteau, chocolat.
Parce qu'à la base, il faut préciser, c'est votre métier quand même.
Eh bien moi je suis artisan chocolatier, je fais le compagnonnage, je me suis passionné pour ce métier, et le fait d'accueillir les gens sur le lieu de production était quelque chose qui me passionnait vraiment. Sauf que, voilà, avec les années, on se rend compte que tout s'industrialise. Si on n'est pas industriel, on est mort. Voilà, c'est malheureux. Ou il faut être tout petit, ou il faut être tout gros. Mais on peut être au milieu. Alors, moi, étant au milieu...
Alors, pourquoi Hubert, du coup? Donc, vous avez dit, on ne peut pas faire le musée du chocolat. Et vous en avez fait une ferme de découverte. Pourquoi?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait le compagnonnage. Dans le compagnonnage, on transmet. On aime transmettre des valeurs. Et moi, je remarque aujourd'hui que les enfants sont un petit peu hors sol. Comme l'agriculture, d'ailleurs. Hein, une agriculture hors sol. C'est peut-être une volonté des gens qui nous dirigent, c'est de nous amener vers une société, on va dire, un petit peu déconnectée de tout. Alors, les enfants, en plus d'être déconnectés de tout, ils sont un peu beaucoup sur le numérique. Et l'idée, c'est de créer un lieu intergénérationnel où les enfants puissent être en connexion avec les parents, les grands-parents, et puis aussi le monde animal, le monde végétal. Alors, vous voyez, le naturalisme ne s'enseigne pas à l'école. On part sur deux enseignements, logique, mathématiques, vocabulaire français. Est-ce que c'est encore dans l'air du temps que d'avoir des enfants dociles qui écoutent bien? Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils soient plus imaginatifs? Voilà, donc toutes ces questions-là, on peut se les poser. Et l'idée d'un parc pédagogique, c'est ça. C'est de s'ouvrir vers l'éducation bienveillante. Voilà, donc beaucoup de médiation animale avec le monde végétal, le monde, on va dire, intergénérationnel. Et puis surtout, bien, cette espèce de connexion à la nature qui fait que les enfants, ben, ils sont bien dans la nature. Il n'y a pas à dire.
Alors moi, ce qui m'a marqué d'ailleurs, Hubert, c'est que quand on rentre, il y a des jeux que ces enfants ne connaissent pas forcément en plus.
Alors avant, il fallait aller dans les bistrots, malheureusement, pour jouer au baby-foot, pour faire des activités un peu conviviales. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, dans les kermesses. Les kermesses, c'était réputé pour ça, des jeux d'adresse, des jeux de vigilance. d'élan, de rapidité, voilà, où les gens pouvaient jouer ensemble. Et cette idée du parc pédagogique, c'est un peu ça justement. C'est de repermettre aux gens de jouer ensemble, parents, grands-parents, grands-parents, petits-enfants, très petits-enfants, parce que vous avez vu, il y a même des draisiennes. Alors, pourquoi on nous a suggéré de mettre des petits trous sur le côté? Après, les enfants croient toute leur vie qu'il y aura des petits trous. Finalement, les draisiennes, non, on apprend d'abord l'équilibre et ensuite on apprend à pédaler. Voilà, c'est, on fait les choses dans l'ordre, dans la logique. Voilà. Et plus on reviendra à des choses simples et logiques, plus on reviendra vers de la frugalité et des plaisirs, on va dire, qui nous reconnectent les uns aux autres. Voilà, c'est un peu ça l'idée du parc pédagogique.
Et après, il y a cette fameuse visite d'animaux. Alors, on est sur un domaine de combien de surface?
Alors, il y a 10 hectares. J'en ai racheté, si vous voulez, il y en avait 2 au départ. Il y en a une douzaine aujourd'hui. L'idée, c'est de rester sur 3 hectares quand même, parce que faut que ça soit adapté pour les tout-petits, adapté pour les personnes à mobilité réduite, adapté pour les personnes avec certains handicaps. Néanmoins, on fera d'autres étapes dans le projet où on permettra aux gens, on va dire, de pouvoir aller sur des petits parcs aventures, des choses comme ça, adaptés pour les tout-petits. Donc ça, on agrandira avec le temps. Mais l'idée, la priorité, je vous dis, c'est d'abord ce que je vous disais tout à l'heure, le monde animal, le monde végétal. Et puis après, si ça doit être plus grand, il ne faut pas que ça devienne plus grand pour être plus grand, que ça devienne plus grand pour que les gens aient plus de confort. Parce que l'idée de nos parcs, nous on a un parc dans les Pyrénées-Orientales qui accueille 70 000 visiteurs. Donc vous voyez, ce projet que je devais faire là, par exemple en 2008, eh ben, je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je vous disais tout à l'heure, hein, les choses étaient un peu plus compliquées qu'ailleurs. Ceci dit, c'est compliqué partout en France quand on est dans l'innovation. Néanmoins, voilà, un nouveau maire a changé tout aussi dans la vie du projet. Hein. C'est lui-même qui est allé là-bas à Saint-André et nous a dit, ben voilà, moi ça me ferait vraiment plaisir d'avoir la même chose à Saint-Pierre-la-Feuille. Et dans ce cas-là, quand on a des énergies positives et en face de soi des facilitateurs et une équipe municipale bienveillante, parce que franchement, ils sont tous venus me voir, me saluer, se présenter. Enfin, vraiment, voilà, moi je suis dans l'autre, vraiment surpris de cet attachement déjà au lieu, parce que le lieu étant légendaire, on n'imaginait pas à ce point. Vous voyez, le Grand Cahors a fait des publications, 65 000 vues, c'est juste impressionnant. Comme cette bâtisse, les Lotois y sont attachés. Donc voilà. Donc on devrait être légendaires tous ensemble avec eux.
Alors, là, justement, la question que, là, si je vous comprends, vous voulez faire de cette ferme découverte de Saint-Pierre-la-Feuille la même notoriété que celle qui existe, que vous avez dans les Pyrénées?
Eh bien, il n'y a pas beaucoup de fermes pédagogiques aujourd'hui qui accueillent 70 000 visiteurs. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est vrai qu'on arrive à être ouvert l'année. C'est important de ne pas être dans l'opportunisme. Voilà. Après, on s'est trahi sur les saisons. Nous, on est des créateurs de contenu. Donc, on arrive là-bas, vous voyez, au mois d'octobre, pour la fête de la citrouille, avoir plus de monde qu'au mois de juillet. Parce que justement, on fait les castagnades, c'était les plaisirs qu'on avait en famille. Alors, la castagnade, c'est quoi? Ben, on fait griller les châtaignes et les enfants, on offre les châtaignes aux enfants. Ils payent un petit supplément, ils peuvent repartir avec la citrouille, ils font un atelier citrouille. Voilà, ça ne s'appelle pas Halloween chez nous, mais ça s'appelle la fête de la citrouille. Voilà, c'est un peu dans l'esprit de ce côté extraordinaire de fêter les saisons. Alors, on le fait pour le mois de février où les enfants font des masques d'animaux. On le fait à différentes périodes pour le mois d'avril, pour la nativité, les œufs, les enfants s'ouvrent dans les œufs, décorent les œufs, les accrochent dans l'arbre à œufs. Voilà, des choses, voilà, il n'y a pas du plastique, ce sont des véritables œufs. Et revenir à des choses simples, voilà, c'est surtout ça.
Alors là, donc, les gens arrivent ici. En attendant que la visite commence, il y a tous les jeux qui sont là. Après, ils font le tour des animaux. Et ensuite, alors, c'est pour ça que je vous interpelle un petit peu avant, c'est que vous êtes un petit peu partout en même temps. Et là, vous allez attaquer un atelier.
Alors oui, alors donc, vous voyez, la visite dure environ une heure. Voilà, les enfants participent aux soins, participent au biberon. Il y a quand même une quinzaine de petits animaux, enfin des petits chevreaux, petits agneaux à nourrir au biberon. Donc les enfants nous aident à faire tous les soins. Ça dure une heure. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on lance un nouvel atelier. C'est l'atelier graines de jardinier. C'est-à-dire le petit pot qui leur a servi à nourrir les petits animaux, bien, il va leur servir à planter une petite graine. C'est peut-être un petit peu symbolique, mais c'est sympa sur le principe de savoir s'occuper d'une plante avant de s'occuper d'un animal. C'est qu'ils vont pouvoir planter leur petite graine, ramener le petit pot chez eux et puis voir pousser cette petite graine. Alors, ça va être du petit pois, ça va être du blé ou ça peut être du maïs ou du tournesol, voilà, selon les saisons ou selon... le plaisir de chacun, ça ne va pas forcément arriver à maturité, mais c'est les sensibiliser au fait de s'occuper d'une plante et de l'avoir poussée, de l'avoir grandir. Voilà, c'est ça.
Vous êtes ouvert que la saison d'été ou vous allez être ouvert aussi l'hiver?
L'idée, c'était de dire cette année, exceptionnellement, on sera ouvert que jusqu'au mois d'octobre, c'est ça nous laissera le temps de continuer les travaux. Les gens s'habituent à nous voir progresser et progresser rapidement, parce que vous voyez, tout à l'heure, j'étais interpellé par une dame, on est vraiment félicité de la rapidité à laquelle on a mis en œuvre ce chantier. Comme je lui disais, c'est vrai que je suis plus aux 35 heures de sommeil que de travail. Voilà, j'ai travaillé 3 mois seul, 3 mois avec une équipe, et une équipe assez remarquable. Donc, on prend du plaisir aussi.
Il faut préciser que vous avez fait ça avant la saison touristique d'été, en 6 mois quand même.
J'ai démarré au mois de mars, voilà, tout à fait. Voilà.
C'est un sacré exploit quand même.
Oui, tout à fait.
Et qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau l'année prochaine alors?
Eh bien, l'année prochaine, on va faire la surprise. Voilà. Et là, je vais vite aller à l'atelier parce que vous voyez, on m'attend.
Merci beaucoup, Hubert.
Avec plaisir.
La ferme découverte donc de Saint-Pierre-la-Feuille est dans le manoir que vous allez pouvoir croiser sur la route. Vous ne pouvez pas le louper. Et jusqu'à fin octobre, c'est ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 18h. Et puis ensuite, pendant les vacances scolaires, il y a forcément des horaires. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur leur site internet saintpierre-fermedescouverte.fr ou exactement sur leur page Facebook aussi.
Alors, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à me suivre. On va continuer la visite.
Et dans quelques instants, sur CFM Cahors, les lectures du week-end, c'est la rentrée littéraire avec Cyril de la librairie Calligramme. Petite idée de sortie de disque aujourd'hui, le concert du 31 décembre dernier en virtuel de Jean-Michel Jarre qui vient de sortir en album aujourd'hui, mais aussi en Blu-ray, en DVD. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il est en son binaural. Alors si vous ne connaissez pas encore le son binaural, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Par contre, il faut absolument que ça soit avec un casque. Si vous avez en plus un casque de qualité, là, vous allez vous régaler. Voilà, c'était juste pour vous annoncer cela. Mais tout de suite, c'est la suite, c'est le mag.
CFM Cahors. Le mag.
Et sur CFM, comme chaque semaine, eh bien, rendez-vous à la librairie Calligramme à Cahors pour vous présenter des livres que vous allez pouvoir retrouver chez tous vos libraires indépendants du Lot. Et là, aujourd'hui, c'est Cyril. Bonjour Cyril.
Bonjour Yannick.
Cyril qui est tout bronzé, qui est en pleine forme, puisque lui aussi rentre de vacances, évidemment. Et là, alors, il a eu le temps de lire des livres, il va vous en présenter deux. Mais alors, le premier, c'est de Léa Muravitch. Ouais, bah oui.
Pas de souci.
Et ça s'appelle Le Grand Vide. Alors, c'est un roman graphique, mais alors, quand je vois la couverture,
oui,
c'est spécial.
C'est spécial. Alors, le dessin, effectivement, est très spécifique, tout en longueur, tout en arrondi.
En bleu prédominant, quand même.
En bleu prédominant, et en sachant que le dessin de ces personnages est complètement à l'opposé justement à la grandeur de la ville qui prend cela, qui est toute carrée, toute en angle, etc., qui est infinie, on ne sait jamais comment est-ce qu'elle finit. Donc vraiment ce côté, voilà, elle a ce paradoxe de créer en fait des personnages complètement longilignes et complètement ronds. Voilà, donc pour résumer un peu, on est dans un avenir incertain, on ne sait pas trop quand est-ce que c'est exactement. Le monde, en fait, les gens existent que par rapport à ce qu'ils appellent la présence, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les nomme régulièrement et qu'ils aient un maximum d'amis et de connaissances d'eux pour qu'ils puissent survivre. Le personnage principal, effectivement, qui s'appelle Maël Naher, parce que c'est très compliqué,
ouais.
Maël Naher, qui est notre là, qui en fait a une homonyme, qui est une star internationale, et qui lui pique en fait toute sa présence. C'est-à-dire que son nom en fait n'est connu que par cette homonyme starlette, et donc elle est souvent proche de la mort à cause du fait que quand les gens pensent à Maël Naher, ils pensent à cette star et pas à elle. Ce qui est compliqué,
voilà,
quand on ne peut survivre que grâce aux pensées des gens et à comment, quand les gens pensent à vous, ce qui est compliqué. Donc elle va essayer de comprendre pourquoi et se battre pour ça. Donc on va vraiment découvrir cet univers à travers ses yeux de cette jeune femme qui essaie de survivre, qui a très peu d'amis, qui est un peu solitaire et qui malheureusement souffre largement de cette non-présence, comme ils le disent dedans. Et donc elle va essayer de se battre au fur et à mesure, donc on va découvrir un peu tout son combat pour exister et pour survivre grâce à cette existence, grâce à cette chose. Et au final on va découvrir, je ne vais pas spoiler la fin, mais effectivement on va découvrir l'organisation de ce monde, de comment il fonctionne, de pourquoi justement cette présence, et voilà. Et donc on a tout cette... C'est vraiment un roman que j'adore, qui est un roman graphique qui est vraiment excellent. Un sujet en plus sur l'identité, sur le fait de... c'est toujours un parallèle avec les réseaux sociaux, avec tout ce que les gens ont l'impression d'exister à travers ces réseaux sociaux. Là, c'est beaucoup plus concret, on est vraiment dans la même chose, mais sans ces réseaux. C'est le réseau du bouche à oreille et c'est le réseau là-dessus. Mais c'est vraiment, on reprend ce principe-là. Et franchement, voilà, le dessin est magnifique.
Justement, alors c'est ce que j'ai remarqué, moi, ce qui par exemple, marque, c'est qu'on est énormément dans la perspective. C'est-à-dire, voilà, on a le point de vue, c'est-à-dire que si la main est devant la personne, elle est forcément plus grosse que personne qui est derrière, parce qu'on a l'impression que la caméra est vraiment à côté. C'est vraiment un style différent, rien que pour ça, il faut le découvrir. Par contre, c'est vrai que c'est en noir, bleu et blanc, quoi.
Alors, c'est foncé, en fait, c'est pas noir et blanc exactement, c'est bleu pour le bleu très foncé,
ouais,
pour le côté sombre et le côté avec quelques touches de couleurs, notamment
pas beaucoup, mais il y en a
surtout pour la ville. C'est en fait c'est ce qui contraste, justement, c'est vraiment le contraste des personnages qui sont bleu et blanc et la ville qui est à la fois de prédominance effectivement bleu et blanc, mais plein de rouge, plein de bleu un peu plus clair, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a très peu de couleurs, c'est vraiment des couleurs primaires. Je crois que les dessins sont vraiment de ce côté-là.
Puis ça pourrait être basique aussi, parce que quand on voit les personnages, c'est tout collégien peut le dessiner, ça. Hein.
Plus ou moins, mais.
Plus ou moins, évidemment.
Mais bon, voilà.
J'extrapole, mais.
Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une étude, il y a quand même des choses qui sont faites.
Bien sûr.
Mais c'est vraiment un roman graphique un peu méconnu, ça s'appelle Le Grand Vide, qui est vraiment dans ces choses. Et justement, pour l'histoire, ça va monter crescendo et on va découvrir, elle va de plus en plus, comment dirais-je, exclue, entre guillemets, etc. Jusqu'à effectivement, voilà, la fin qui va être sans spoiler, qui voilà. Mais qui est franchement, voilà, une très belle fin, finalement, et une conclusion qui est à la hauteur, en fait, du roman graphique et de cette BD.
Alors pourquoi sous le titre Le Grand Vide, il y a le nom de l'auteur et puis il y a 2024 à côté?
Parce que c'est l'éditeur.
Ah, c'est l'éditeur.
L'éditeur s'appelle 2024, oui, va savoir.
Et ben donc, Le Grand Vide de Léa Muravitch, et c'est aux éditions 2024, et c'est un roman graphique avec pas mal de pages.
Gros, hein, pas mal de pages, c'est une histoire complète.
Ouais, c'est une histoire complète, il doit y avoir 200 pages au moins, je pense.
Exactement. Hein,
quelque chose. Deuxième livre, alors là, on va dans un roman, il fait partie de la rentrée littéraire.
Exactement, voilà, donc, co-auteur connu, Kazuo Ishiguro, qui est connu notamment pour Les Vestiges du Jour, qui est son plus gros roman, qui est sur un majordome, voilà, à l'époque nazie. Donc, etc., et qui a obtenu le prix Nobel il y a quelques années pour l'ensemble de son œuvre. Là, il va partir dans un domaine un petit peu plus, même si certains de ses romans étaient déjà dans ce domaine-là, il part un peu dans la science-fiction et l'anticipation. On est dans un avenir indéterminé. Il existe aujourd'hui, dans cet avenir-là, des amis artificiels qui sont des robots, en fait, qu'on peut utiliser pour... Bah justement pour être assisté, pour être aimé, entre guillemets, pour s'occuper des enfants et toutes ces choses-là. On va suivre l'histoire de Clara, qui est elle-même un robot. Donc toute l'histoire va se dérouler de son point de vue et de sa façon de penser. Qui commence au tout début de l'histoire, là je ne spoil pas, mais en fait elle est dans la vitrine et elle observe les gens à travers les choses. Donc elle analyse un peu le regard des gens et de leur attitude et de leur conversation et de tout ce qui se passe devant cette vitrine-là. Jusqu'au jour, effectivement, une jeune fille va la repérer, va l'acheter, et va effectivement devenir une amie artificielle de cette jeune fille qui est malade, qui effectivement, on ne sait pas si elle est en fin de vie ou pas encore, mais voilà, effectivement, elle va l'assister dans sa maladie. C'est un roman qui est, à l'image de Ishiguro, dans tout ce qu'il a pu faire avant, un roman très intimiste. On rentre vraiment dans la façon de penser, dans le mode de vie de cette robot. Ou ce robot, femme, qui effectivement va aimer cette jeune fille, va lui offrir l'amour que ses parents n'ont pas le temps de lui donner. Et donc c'est vraiment une réflexion sur ça, sur est-ce qu'un robot est capable d'aimer. Alors c'est pas un sujet qui est nouveau, hein, c'est
surtout au Japon.
Voilà, surtout au Japon, les auteurs de science-fiction l'ont refait. Là, c'est pour ça qu'on a beaucoup, en ce moment, c'est un petit investissement des auteurs contemporains dans ce petit registre de science-fiction que d'autres auteurs ont fait déjà depuis des années, mais avec tout un regard un peu plus social et un petit peu plus actuel. Effectivement, avec toute cette réflexion qu'on a sur... les robots peuvent filmer, est-ce que les hommes sont encore capables, est-ce qu'on ne va pas être remplacés justement par les robots. Toutes ces questions un peu existentielles qu'on peut se poser quand on est amateur de science-fiction et qu'on est vraiment là-dedans. Et Ishiguro les traite vraiment avec nostalgie, avec son empreinte poétique qu'il a déjà, puisque c'est un auteur d'origine japonaise, même s'il est britannique. Donc il a cette petite touche un peu de la japonaise qui est vraiment dans cette chose un peu psycho, psychologique, vraiment là-dessus. C'est un roman que j'ai vraiment dévoré. Je l'ai dévoré ce week-end, juste pour dire, je viens juste de le finir.
D'accord.
C'est vraiment une... Si on connaît le style de Ishiguro, on va reconnaître vraiment dans son chose. C'est pas forcément le meilleur roman, Les Vestiges du Jour reste pour moi le summum de ce qu'il a fait, même s'il y en a d'autres derrière. Mais
c'est un très bon roman.
C'est un très bon roman, honnêtement c'est un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire, même si j'ai pas tout lu. Mais franchement voilà, si vous aimez ce côté un petit peu science-fiction, mais pas trop, puisqu'on n'est pas vraiment dans un roman là-dessus. Si vous aimez ces romans un peu interrogatifs, un peu où il essaye de dévoiler l'illusion en fait de ce monde et de tout l'avenir qu'on pourrait avoir dans les quelques années prochaines, voilà, c'est pour moi un petit chef-d'œuvre dans son écriture.
Kazuo Ishiguro, ça s'appelle Clara et le Soleil, c'est un roman aux éditions Gallimard,
ouais,
et ça fait partie de la rentrée littéraire.
Exactement.
Et tous ces livres, vous allez pouvoir les trouver chez vos libraires indépendants du Lot. Eh ben merci Cyril.
Ben merci.
À bientôt.
À bientôt.
Demain, Cahors, sur les allées Fénelon, c'est la fête des familles organisée par l'UDAF 46. Il y aura des administrations pour vous donner accès à vos droits, que ce soit la sécurité sociale, la CAF, la préfecture, d'autres structures comme celle-là qui vous informeront sur la manière sur vos droits, tout simplement. Alors ne venez pas avec un papier à traiter ou quoi que ce soit, c'est juste un endroit pour vous permettre de vous renseigner sur l'accès à vos droits. Il y aura des tas d'associations aussi et puis des structures gonflables, il y aura des spectacles, des animations parce que c'est la fête de la famille. Plein d'associations seront représentées et nous, sur CFM, nous aurons une émission spéciale faite depuis là-bas. C'est diffusé demain samedi de 13h jusqu'à 15h. Voilà, c'est la fin de ce magazine à réécouter tout à l'heure à 17h et 21h30 et puis surtout en podcast cfmradio.fr. On reste ensemble pour l'après-midi, dans un instant le journal.